Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Jason Ballon Rond, le podcast du Club École où l'on parle 100% de soccer. On est le 12 janvier présentement, c'est le premier podcast GBR de l'année 2024. Un grand moment donc, et il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui commence dès demain, le 13 janvier. Laurent Courtois, qui est le nouvel entraîneur-chef du CF Montréal, et bien d'autres choses dans l'actualité footballistique. Alors, pour en parler à GBR, on est avec Thomas Lafond, Douali Ibrahim et Hans Junior Najimé. Comment ça va, les gars?
Ça va très bien, toi?
Ah, ça va super. Très excité présentement. On l'a dit, là, wow, Douali qui nous quitte. Petit problème technique là, du côté de Douali. On va espérer que ça soit mieux durant le podcast. Donc,
pas
les gars.
Le Wi-Fi de
Sorel, ouais, on le connaît bien, celui-là. Il n'est pas toujours performant. Tout comme la ville de Sorel. Mais bon, ça, c'est un... Alors, désolé à tous les Sorellois. Mais bref, les gars, premier sujet d'actualité, ben chez nous, à Montréal. En fait, bonne année, premièrement.
Bonne année.
Bonne année à tous nos auditeurs de Jason Ballon Rond également. Une nouvelle année qu'on souhaite des plus reluisantes et plaisantes pour le soccer. Ceci étant dit, Laurent Courtois, nouvel entraîneur-chef du CF Montréal. Qu'est-ce qu'on en pense, là? Je vais aller avec toi, Hans, que je juge étant un expert MLS.
qu'est-ce qu'on en pense? C'est déjà une très bonne acquisition pour le CF Montréal. Parmi les candidats qui étaient en liste, je pense que c'était lui qui était, le favori. Puis c'est un bon candidat, justement. Je pense qu'il a fait bonne impression à sa première conférence de presse en compagnie de Gabriel Gervais, plutôt cette semaine. C'est un homme qui est charismatique, c'est ce qu'on aime déjà à Montréal, il a une personnalité, puis il l'a démontré. Puis justement, qu'est-ce que j'ai soutiré de cette conférence de presse, c'est que c'est quelqu'un qui, au-delà tu sais, des performances sur le terrain, il préfère voir une attitude chez les joueurs, avoir une identité, construire quelque chose avec le CF Montréal pour permettre à cette équipe de progresser dans le futur. Donc, ça commence par le bon développement des joueurs, par bien connaître ses joueurs. Il veut se rapprocher justement de ses joueurs, puis aussi des partisans. Il inclut pas juste le joueur, le staff, l'équipe, il inclut vraiment la communauté montréalaise. C'est ce que j'ai aimé de lui. Puis qu'il va être intransigeant sur l'effort apporté sur le terrain, la combativité des joueurs qui a peut-être fait défaut dans les dernières années. Puis c'est peut-être cet aspect-là qui va faire en sorte que le CF va connaître des beaux jours dans les prochaines années, peut-être retourner en série, gagner le championnat canadien. Puis ça, c'est les ambitions que le CF souhaite dès cette année. C'est vraiment de retourner dans les compétitions puis d'être une menace tant au niveau de la MLS que même dans la Ligue des champions de la CONCACAF. Puis sinon, c'est ça.
League's Cup aussi, pourquoi pas?
La League's Cup aussi. Il vise pas ses petits, genre à faire peut-être les séries ou être au bord des séries. Il vise vraiment gros. Puis je pense que Laurent Courtois, c'était une personne qui est terre à terre. Il sait qu'il y aura du travail à faire, mais il est confiant en ses joueurs. Puis il a dit ouvertement qu'il ne veut pas que ses joueurs sentent de malaise ou soient gênés à faire des erreurs parce que c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir évoluer. Puis il veut juste voir de la progression et surtout de l'effort, là, de la grinta chez ses joueurs. Puis je pense que c'est ça qui manquait au CF Montréal et il peut apporter beaucoup de bonnes choses.
La grinta, très bien dit. Juste pour dresser un petit historique là, avant de te passer la parole, Tom. Laurent Courtois qui a coaché les jeunes à l'Olympique Lyonnais, qui a ensuite été adjoint dans plusieurs clubs de MLS. Finalement, a été adjoint avec, entraîneur des jeunes chez le Crew de Columbus, donc dans MLS Next Pro. Deux finales consécutives en MLS Next Pro, dont une remportée. Donc, bonne expérience avec les jeunes. T'en parlais, Hans, pour le développement des jeunes. Je pense que ça va être un très bon entraîneur. Et toi, Tom, si tu voulais ajouter, compléter sur ce que Hans vient de dire, tes impressions par rapport à cette embauche de Laurent Courtois, le 8 janvier dernier qui a été embauché, donc seulement il y a 4 jours.
Ben écoute, je suis vraiment d'accord avec ce que Hans a dit. Je pense que c'est un peu ce qui manquait à l'an dernier, un peu de tolérance envers les jeunes. On sentait qu'il y avait la mèche courte à quelques reprises, notamment, on se rappelle l'incident de Sean Rea, et que... et que, ben, dans le fond, il a perdu vestiaire également, des relations tumultueuses avec plusieurs vétérans aussi. Et je pense qu'avec la fin de saison que le CF a connue, je pense que le fait de vouloir intégrer la communauté montréalaise également dans l'équipe, un sentiment qu'on sent d'avoir perdu ça les dernières années du côté du CF, je pense que c'est important de la part de Laurent Courtois sur le terrain. Je pense que c'est l'entraîneur que ça prenait également. T'sais, il y a de l'expérience avec les jeunes. Le CF s'est vraiment engagé dans un rôle de club plus de développement qu'on va vendre, mettons, les joueurs quand la valeur va être à son point le plus élevé. Et je pense que c'est exactement le coach que le CF a besoin présentement.
Complètement. Ouais, vas-y, Hans.
Ouais, puis juste pour terminer aussi, là, quand il dit qu'il veut... faire la promotion des jeunes, les intégrer dans l'équipe. C'est pas des paroles juste à l'air, juste pour le camp d'entraînement là, qui va se dérouler très bientôt en Arizona.
Sur la route, oui, c'est ça. C'est un entraînement qui ne sera pas à Montréal.
Oui, c'est ça. Il a invité plusieurs joueurs de l'équipe réserve. Ça, c'est quand même assez normal parce que c'est déjà des joueurs adultes qui ont entre 18 à 20 ans, mais il a aussi invité des joueurs du U17 de l'Académie, des joueurs qui ont vu jouer. Il y a Sergei Kozlovski, ouais, un défenseur central qui a un futur très prometteur, là, qui était sur l'équipe nationale. Emric Fotsing au milieu de terrain, plus aussi l'attaquant Sébastien Joseph. Donc, tu sais, il veut vraiment intégrer ces jeunes-là, les faire vivre une expérience professionnelle. Puis peut-être, on ne sait jamais, c'est peut-être eux qui vont être la relève dans les prochaines années. Donc, déjà, il montre qu'il fait des efforts à ce niveau-là. Puis c'est pas juste des paroles à l'air de même.
À noter qu'au camp d'entraînement, il y a aussi Alessandro Biello, qui est le fils de Mauro Biello, ouais. Et Jesse Saputo, que tu me disais qui était le neveu donc de Joey Saputo. Donc, on a des liens familiaux là, à travers de cette famille de l'Impact / CF Montréal. Ouais. D'où, content que tu sois revenu. Veux-tu dire quelques phrases là, pour voir si ton son est correct?
Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien.
Yes, bonsoir. Bonne année, D'où aussi en passant.
Bonne année à vous aussi les gars.
Yes. Et puis, Hans parlait tantôt que les attentes de Laurent Courtois envers lui-même et envers son club étaient assez élevées. Séries éliminatoires, championnat canadien, etc. Quelles sont tes attentes, toi, par rapport au CF Montréal avec Laurent Courtois?
Écoute, c'est quand même une bonne question que tu amènes, Ali. Moi, je pense que les attentes vont être les mêmes que l'entraîneur. Hein. Si l'entraîneur s'attend à ce que le CF se qualifie pour les séries éliminatoires et... tu disais qu'il gagne le championnat canadien, si j'ai bien compris.
De viser haut au niveau du championnat canadien, c'est ce que Hans disait. Et que Laurent Courtois a dit aussi. Là.
OK. Ben, écoute, si Laurent Courtois sent que... Ben, en fait, s'il dit que c'est ça ses objectifs, moi, je m'attends aux mêmes objectifs aussi. Écoute, il vient quand même d'une belle école. Il vient de l'école de Wilfred Nancy à Columbus. Là, donc, moi, j'ai quand même très confiance aux aptitudes de Courtois. Maintenant, ça va rester. Moi, j'ai surtout hâte de voir la fin du mercato, là, savoir s'il va y avoir d'autres joueurs qui vont venir du côté de Montréal. Ça, c'est vraiment la grande question à se poser du côté du CF. Mais au moins, il y a une bonne nouvelle. Au moins, il y a un nouvel entraîneur. Un entraîneur qui a connu un autre excellent entraîneur, Wilfred Nancy, qui peut-être, possiblement, le meilleur entraîneur que le CF a eu depuis son entrée à MLS. Donc, non, moi j'ai extrêmement confiance, mais pour répondre à ta question, je m'attends aux mêmes. J'ai les mêmes attentes que Laurent Courtois. Si lui il pense que cette équipe-là peut se rendre aux séries éliminatoires, je m'attends à la même chose.
Moi je vais te dire mon opinion personnelle, je suis très content que Laurent Courtois ait des objectifs élevés. Cependant, je regarde l'effectif puis je regarde le style d'entraîneur qui est Laurent Courtois. Je me dis, il est là pour développer les jeunes, il est là pour. Les aider à croître. Et puis, je me dis que les séries ou des succès rapides, c'est pas ce qui m'importe le plus. Je sais que c'est important de gagner. Puis, en plus que le CF Montréal n'est pas dans une situation financière super bonne. Donc, de gagner, c'est quand même assez important. Mais je pense que si tu regardes juste le portrait global, là, si on oublie la situation financière, ça ne me dérange pas qu'on prenne une, deux saisons pour juste faire croître les jeunes, implanter leur encours à long terme. On n'a vraiment pas eu beaucoup de stabilité au poste d'entraîneur-chef du côté du CF Montréal. Et moi, j'aimerais que Laurent Courtois soit un entraîneur-chef qui dure plusieurs années. Je crois en son potentiel, comme Hans et Thomas ont dit. Donc, ça met peut-être pas deux ans, mais cette année, avec ce qu'on a vécu avec Losada l'an passé, tu sais, Losada, on était très proche des séries, mais la relation avec les joueurs et l'ambiance générale dans le vestiaire, c'était pas excellent. Fait que si on a des résultats un peu moins bons, mais que l'équipe en tant que telle se porte mieux qu'à l'an dernier, moi, je ne vois pas tant d'inconvénients. Mais en effet, si on est pour faire les séries et que l'équipe se porte bien à l'intérieur du vestiaire et tout, ça serait le meilleur des deux mondes. Voilà. Ensuite, est-ce que, Hans, je te relance la balle pour Laurent Courtois, est-ce que 8 janvier, là, est-ce que c'est trop tard pour avoir nominé cet entraîneur-chef aussi tard? Moi, je pensais qu'avant le temps des fêtes, ce serait réglé. Finalement, 8 janvier là, que ça sort.
Ben, oui, tard. On ne peut pas savoir ce qu'ils avaient déjà prévu. Est-ce que c'était déjà le candidat? Il savait déjà, il voulait juste l'annoncer plus tard ou quoi que ce soit. Mm-hmm. C'est sûr que oui, c'est tard parce que c'est à une semaine du camp préparatoire. Donc, les fans attendaient impatiemment. Ils pensaient que ça allait être fait avant le début de l'année 2024. Là, après, on se disait, tu sais, ça va être dans les prochains jours. Tu sais, c'est toujours, on attendait tout le temps, mais au final, il a été nommé. C'est ça l'important. Avant le camp préparatoire, même si c'est une semaine avant. D'après moi, ils avaient déjà une bonne idée que ça allait être lui. Et ils voulaient juste peut-être finaliser certains trucs. Mais dans l'ensemble, je pense pas que ça aura tant un impact sur l'équipe parce que au final, il l'a dit lui-même avant de commencer à genre faire du beau jeu, avoir la meilleure équipe, lui il veut juste que l'équipe soit combative puis que l'équipe travaille. Fait qu'il va commencer, il va bâtir son équipe sur les gars les plus travaillants. Puis c'est peut-être ça qui va justement. Tu disais tantôt, ça va peut-être prendre un an ou deux, mais je pense que ça se peut faire cette année, justement. Tu sais, Losada fait quand même quelque chose de bien avec des joueurs qui ne s'entendaient pas bien avec lui, mais je pense qu'avec Courtois, si les gars maintiennent une éthique de travail constante, c'est peut-être ça qui va faire en sorte qu'ils vont récolter des points puis tu sais, aller faire les séries. Fait que, pour revenir à ton point, tu sais, oui, c'est tard, mais je pense que Courtois, il a un plan en tête. Puis ce plan-là, c'est les joueurs sont au courant. Puis ça va commencer dès cette semaine en Arizona. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec l'équipe.
Bien d'accord avec ce que tu as dit. Puis aussi, je parlais de tort parce que l'an passé, pour moi, je trouvais que c'était une erreur qu'on ait fait, qu'on ait nommé Losada assez tard, même si lui, c'était plus tôt que Courtois, à cause qu'il n'a pas été impliqué dans le mercato et dans les joueurs qu'on est allé chercher. Il a dit, par exemple, je ne me rappelle plus exactement qui était allé chercher, mais que lui, c'était Bryce Duke. Bryce Duke ne faisait pas partie des plans de Losada. C'était quelqu'un qui était dans les plans de Wilfried Nancy. Et Losada s'en était plein là. Donc,
mais Bryce Duke est arrivé, je pense, pendant la saison. Juste avant le pré-match au Sasa Puto.
Ouais, c'est ça, mais c'était quelqu'un que Wilfried Nancy voulait et non pas Losada. Ah, donc, ouais. C'est des choses comme ça entre Renard et l'entraîneur-chef qui n'étaient pas qu'on n'était pas sur le même diapason, voilà, c'est ça l'expression, je pense. Donc on n'était pas au diapason, voilà l'expression. Fait que c'est ça. Puis parlant des joueurs qu'on est allé chercher, dans ce mercato aussi, on a déjà Ryan Edwards qui fait un retour là, au CF Montréal, lui qui va être maintenant au poste de latéral gauche. On a aussi procédé à un échange. Juan, qui il jouait où déjà, Juan? J'ai un blanc. Il a joué à Orlando, mais là, il était rendu... Comment?
Juan. Il était alors...
Ouais, il a joué à Orlando, mais il n'était plus là. Bref, blanc de mémoire, on a le département des recherches là-dessus. Mais donc, échange avec Aaron Herrera, qui n'est plus au club. Qu'est-ce que tu penses de ces deux arrivées-là, Tom? Et qu'est-ce que tu recherches d'autre aussi en termes de... dans les prochaines semaines du mercato?
Ben, on s'en est parlé. L'arrivée de Juan et le départ d'Aaron Herrera. Oui, Herrera, c'était supposé être la grosse acquisition du mercato l'an dernier. Ça supposait être pillé de la défense. Finalement, n'a pas été capable de rester en santé. Et du côté de Raheem Edwards, c'est une option comme latéral que je pense qu'il risque d'aider l'équipe. Je vous avoue que à son parcours à Montréal, j'avais un peu délaissé l'équipe. Donc, je ne me rappelle plus exactement comment il était à Montréal, mais par contre, il semble s'être bien repris. Je ne me trompe pas, il était avec Galaxy. Donc,
DC United, DC United, Juan. Voilà.
Non, pour Juan, je parle de Raheem Edwards.
Ah oui, okay, ouais, ouais, Edwards, oui, Galaxy. Puis Anne, oui. Merci pour la recherche. Juan vient du DC United.
Oui, mais, merci Hans. Mais je pense que ce qui manque pour le CF, c'est un peu la même chose qu'Arsenal, c'est un attaquant. On a vu l'an dernier, gros manque de finition offensive. On réussit à créer des chances, on n'arrivait pas à les finir. Et je pense qu'on n'a pas réussi, on n'a pas encore trouvé de remplaçant, surtout qu'avec le départ de Kyoto, il y a encore il va encore avoir moins de créativité offensive du côté de
ça. Tu crois pas au potentiel incroyable de Chinozo Far?
Non, malheureusement. Écoute, j'ai donné beaucoup de chance à Chinozo, mais il m'a déçu une fois de trop.
Ouais.
Ouais, mais tu as ajouté quelque chose sur les attaquants, vas-y.
Mais il me semble que Edwards, lors de son premier passage au CF, il était ailier, non?
Ouais. Il me semble, ouais. Milieu
gauche, il me semble. Ouais. Parce que finalement, je pense qu'il s'est converti en défenseur latéral. Puis écoute, on verra qu'est-ce qui se passe. Mais c'est vrai que ça va aider pour le CF. Mais pour finir sur ce que Thomas a dit, déjà, j'ai bien aimé la comparaison avec Arsenal parce que c'est vrai qu'elle est. Que les deux équipes ont des difficultés avec les numéros 9. Mais pas juste ça aussi. Écoute, un vrai numéro 10 aussi, ce serait important pour le CF. Là. On le sait l'année passée, on a essayé avec Brass Duke de trouver un genre de remplaçant temporaire de Georgi Mihailovic, mais encore une fois, ils n'ont pas trouvé le remplaçant de Mihailovic. Donc, il faudrait vraiment que le CF trouve un moyen de chercher un numéro 10, en tout cas, ou un milieu offensif et créatif qui peut aider l'attaque du CF, surtout à des moments où que les attaquants manquent de finition par moment. Là.
D'ailleurs, ouais. Mihailovic qui est de retour à MLS avec.
Ouais. Oui, tout à fait. Puis James Pantemis qui s'est trouvé une niche du côté de Portland. Puis Maxime Crépeau, est-ce que c'est confirmé qu'il est avec, qui a rejoint les Timbers?
Ouais.
Crépeau aussi, c'est confirmé. Ouais. Bon, fait que là, un duo d'anciens Montréalais là, du côté des Timbers. Puis aussi Gio Savarese qui est ancien entraîneur des Timbers qui était un des candidats là, pour être le nouveau coach. Mais je crois qu'avec Laurent Courtois, on est tous satisfaits. Mm-hmm. Fait que moi, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est du CF Montréal. Messieurs, est-ce qu'on est prêt à se diriger du côté de la Coupe d'Afrique des Nations?
Enfin! Oh, oui, on est prêt.
Ça faisait longtemps qu'on voulait en parler. Alors, lancez-vous. Et là, je ne sais pas comment vous voulez y aller. Groupe par groupe, peut-être?
Ouais. Ouais. Pas le groupe par groupe. Hein.
Groupe A, moi, je vois Côte d'Ivoire et Nigeria. Nigeria, ben en fait, ces deux-là, Côte d'Ivoire et Nigeria, je pense que c'est quand même des grands favoris là, dans cette compétition. Je ne sais pas si...
Mais par contre, pour le Nigeria, moi, je crois plus ou moins à cette équipe-là. Oui, ils ont une grosse masse salariale parce qu'ils ont beaucoup d'attaquants prolifiques, notamment Victor Osimhen. Mais si tu regardes le reste de la formation...
T'as-tu dit masse salariale?
Il n'y a pas masse salariale, mais je veux dire...
Valeur.
Mais valeur, ouais,
valeur marchande.
Merci beaucoup.
Il s'est trompé de sport, le gars.
Merci beaucoup.
Le gars, il est partout. Bref.
mais tu sais, quand on regarde la valeur marchande du Nigeria, oui, elle est une des plus grosses parmi les équipes africaines, mais reste quand même que c'est presque que à l'attaque. Là. Puis si tu n'as pas un assez bon milieu, si tu n'as pas assez une bonne défense, s'il n'y a pas une cohérence dans l'effectif, moi, je crois plus ou moins au Nigeria. Oui, je pense qu'ils vont être capables de se sortir facilement dans le groupe A, mais je vois pas le Nigeria comme une des équipes favorites. Je ne sais pas ce que tu en penses, Hans, mais moi, je suis un peu sceptique par rapport au Nigeria.
Favorite, je ne penserais pas. C'est une équipe qui peut sortir des poules assez aisément, malgré que les deux Guinées, là, Équatorial et Bissau, sont pas des équipes à prendre à légère, mais je pense qu'ils peuvent sortir des poules. Mais je pense que la Côte d'Ivoire, surtout que c'est eux qui seront à domicile, vont finir premier de ce groupe-là. Et après, tu sais, un faux pas du Nigeria, ça peut être la Guinée-Bissau qui soit qualifiée. Donc, ça reste à voir. Mais, tu sais, surtout que dans cette CAN-là, il y a les meilleurs troisièmes, il y a quatre meilleurs troisièmes qui sont qualifiés aussi. Mm-hmm. Ou deux meilleurs troisièmes, si je ne me trompe pas. Donc, tu sais, c'est ouvert là, un peu pour tous. Mais le Nigeria, normalement, devrait passer là, avec Victor Osimhen en avant. S'il est en grande forme, ça pourrait les aider.
Ouais, tu sais, Osimhen, mais il y a Boniface, Mofi, Ilian Nacho, je ne sais pas s'il est sélectionné aussi. Là. Mais bref, c'est du lourd là, en attaque. Mais vous avez raison, il n'y a pas. C'est moins épais en milieu puis en défense. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire est au-dessus du Nigeria, selon vous?
Ah oui, clairement. Oh oui, clairement. Pour moi, même la Côte d'Ivoire, c'est une des équipes les plus équilibrées du tournoi. Là. Si tu regardes, juste le milieu de terrain, t'as quand même deux
Fofana,
joueurs.
Fofana, Kessié.
T'as Fofana, t'as Kessié, t'as Sébastien Haller qui est en avant, t'as Zaha qui est là. Je pense que t'as Nicolas Pépé. T'as Jonathan Bamba qui est là aussi. T'as pas mal, t'as vraiment une belle formation. Là. Moi, je trouve extrêmement bien équilibré du côté de la Côte d'Ivoire. Même moi, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est une des équipes favorites là, pour remporter ce tournoi. Là. Mm-hmm.
C'est vrai que c'est plus balancé. Hans, je pense que tu voulais ajouter quelque chose.
Ben non, ça va. Justement, c'est juste quand tu regardes le milieu de terrain, tu vois que c'est là la différence entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Là. C'est le talent, puis surtout l'efficacité là, qui est au milieu de terrain. Il ne voit rien qui va peut-être peser sur la balance.
La défensive aussi des Ivoiriens qui est assez impressionnante également. Diomandé qui est très bon à Porto. Serge Aurier.
Datro Fofana.
Oui, Datro Fofana également. Mm-hmm. Will Boly. Donc, c'est quand même une défensive assez solide.
Et est-ce que Eric Bailly est sélectionné?
Non.
Non?
Vous
voyez peut-être revoir ce grand Eric Bailly. Mais bref, groupe B maintenant. En fait, je voulais juste dire, Côte d'Ivoire, c'est le pays hôte à ne pas oublier. Donc, il va avoir l'appui de ses partisans. Mm-hmm. Groupe B maintenant, Cap-Vert, Égypte, Ghana et Mozambique. Honnêtement, c'est sûr, l'Égypte n'est pas une équipe qui est vraiment bien tant que ça garnie. Là, il y a Mohamed Salah, le meilleur joueur africain de loin. Mm-hmm. Mais désolé pour le biais ici. Mais voilà, est-ce que je pense qu'ils vont passer assez aisément, mais il y a quand même le Ghana qui est une grosse menace dans ce groupe B. Là, d'où, je ne sais pas si vous
Le Ghana, c'est quand même une équipe vieillissante. Tu as des gars comme André Ayew. André Ayew, là, moi, je me rappelle, là, Coupe du Monde 2010, là, il avait seulement 20 ans, puis il joue encore 14 ans plus tard là, à la CAN. Donc, c'est une équipe qui est relativement vieillissante. Oui, elle a été quand même intéressante lors du dernier mondial, mais je m'attends à voir le Ghana terminer deuxième du groupe derrière l'Égypte que j'ai comme favori du groupe B. Mais je ne m'attends pas à un grand parcours de la part du Ghana. Là. Je trouve que c'est quand même une équipe qui est vieillissante là, pour l'instant. Peut-être que je vais me tromper. Là. Puis aussi, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec les Cap-Vert aussi et la Mozambique. Hein.
Ils
peuvent surprendre dans ce groupe-là là, facilement. Là.
Tout à fait. Puis Ghana, t'as quand même Iñaki Williams et surtout Mohamed Kudus. Là. Quel joueur du côté de West Ham, Kudus. Donc, la pièce maîtresse de cet effectif. Autre chose à ajouter sur le groupe B, Tom ou Hans?
Non, écoute, je pense que tout a été dit.
Ouais, à surveiller Mohamed Salah, bien entendu, du côté de l'Égypte, qui pourrait faire des ravages, mais s'il n'en fait pas tant que ça et qu'il revient plus vite à Liverpool, moi, ça ne me dérange pas trop. Ouais. je vais dire ça comme ça.
Que ça va revenir aussi vite, là, parce que c'est surtout comme, tu sais, là, ça a une de ses dernières chances pour gagner un trophée pour sa nation. Surtout que chez lui, en Égypte, il y a beaucoup de polémiques comme quoi, tu sais, c'est pas considéré comme le meilleur joueur déjà en Égypte, là, dû à des histoires parce qu'il n'a pas ramené de coupe encore. Donc, je pense qu'il va tout donner pour la ramener. Surtout que l'Égypte est très, très bon lors des Coupes d'Afrique des Nations. Ils ont des bons parcours. Juste lors de la dernière CAN en 2021, ils ont perdu contre Sadio Mané, contre le Sénégal, en pénalty. Donc, peut-être qu'ils vont vouloir.
C'était demi-finale ou finale, ça, déjà?
C'est en finale, ils ont perdu.
Ah oui, c'est en finale, oui, t'as raison, c'est en finale. Oui,
avec l'épisode des lasers là, dans les yeux des joueurs égyptiens.
Exact. Mais pas juste ça aussi, Hans, c'est déjà le fait aussi que l'Égypte, c'est l'équipe la plus titrée de la CAN. C'est une équipe qui, il n'y a pas si longtemps que ça, là, à la fin des années 2000, début de décennie 2010, c'est une équipe qui a remporté 3 cannes consécutives. C'est une équipe qui se rend loin régulièrement dans ce tournoi-là. Si on regarde les 2 dernières cannes, ils se sont rendus à demi-finale à chaque fois. Donc, Mohamed Salah se retrouve avec beaucoup de pression, là, comme Anne s'est mentionné, là, surtout au fait qu'il n'a pas encore remporté de titre avec l'Égypte. Mais malgré que, écoute, c'est pas tant de sa faute. Là, je pense que Mohamed Salah ne s'est pas trouvé dans une génération dorée comme c'était le cas il y a une dizaine d'années.
Tu sais, parce que tu regardes l'équipe qui l'entoure, puis à part peut-être El Neni, je vois pas de joueur de grande renommée non plus. Là. Bref, groupe C maintenant, un des groupes les plus relevés, je pense, avec Cameroun, Gambie, Guinée et Sénégal, les champions en titre. Tiens, Tom, veux-tu commencer?
Ben, écoute, je pense que le Sénégal est en bonne posture pour répéter. Même si c'est l'effectif, et je ne dirais pas que. Même si les cadres de cet effectif-là ne sont pas au même niveau que. Qui, il y a 2 ans, c'est quand même assez relevé. Là. Je parle de Sadio Mané et Koulibaly qui vont quand même mener cette équipe-là avec Nico Jackson à l'attaque. On a beau ne pas l'aimer à Chelsea, il est quand même un attaquant qui fait le travail. Et du côté, c'est vraiment une équipe qui est bien bâtie, selon moi. Vraiment une des comme tu dis une des équipes favorites du tournoi pour l'emporter.
Hans?
Ben oui, c'est ça. C'est une gale, là, pas besoin de présenter l'équipe. Là, c'est tous des joueurs qu'on connaît plus ou moins, mais à partir du gardien jusqu'à l'attaquant de pointe, c'est une équipe qui a des joueurs de classe mondiale. Donc c'est certainement un des favoris pour l'emporter. Mais après, pour moi, c'est le groupe de la mort là, avec le Cameroun.
Ouais.
Qui est très très bon en Cannes.
Cameroun aussi, grosse équipe. Là.
Ouais, c'est ça, avec le Vincent Aboubakar, tout un joueur. Là, mais oui. Sinon, toute une équipe. Puis aussi la Guinée, qu'il ne faut pas sous-estimer. Hiro Guirassy, Naby Keita.
Ouais.
Justement, là-dedans, Cannes, Sénégal, puis Guinée, ils avaient fait 0-0. En plus, fait que c'est pas une petite équipe. Puis ça va être un groupe très, très compliqué qui peut avoir beaucoup de surprises. Mais encore là, c'est une canne avec des meilleurs troisièmes. Donc, je pense qu'un des meilleurs troisièmes de la canne devrait être dans ce groupe-là. Donc, Sénégal, Cameroun, la Guinée, selon moi, vont passer aux prochaines étapes de la compétition.
Très intéressant. Brian Mbeumo, du côté qui joue pour Brentford, du côté du Cameroun, est blessé, si je ne me trompe pas. Hein.
Ouais.
Et aussi une petite polémique déjà du côté de. Ouais, mais je voulais mentionner ici qu'il y avait une petite polémique aussi du côté du Cameroun avec Onana qui ne voulait pas disputer le premier match. Là, ça commence un peu mal du côté du Cameroun. Puis le Cameroun, historiquement, il y a eu des controverses au courant des dernières années, là, que ce soit à l'époque ou qu'il y avait eu 2 joueurs du Cameroun qui s'étaient battus en pleine Coupe du Monde au Brésil. Là. C'est une équipe qu'il faut qu'il fasse attention. Là. Puis en plus, je pense que Samuel Eto'o est rendu président de la fédération au Cameroun.
Ouais.
Donc, Samuel Eto'o a tendance aussi à dire
des dingueries.
Des conneries.
Mais faut comprendre que déjà au Cameroun, dans l'Afrique de base, là, s'il n'y a pas de polémique, c'est pas normal.
c'est vrai, fair enough.
Ouais. Il doit toujours se passer quelque chose de bizarre, comme des gens qui, avec leur âge, ils ont l'air d'avoir 40 ans, mais ils ont 16 ans sur leur papier. Ça, c'est très normal. Là, mais que Onana décide de rester avec Manchester United pour se focusser sur son club. Il va venir après. Ouais. Ça peut être un
match. Ça va être assez difficile, son.
Ouais, mais il est bon.
Il va manquer le premier match, c'est ça?
Ouais, il manque le premier match, puis il vient après.
Parce que Manu joue demain, c'est ça?
Exactement.
Ouais,
il joue dimanche, moi non plus.
Ouais. Pas manqué de respect à Nana, mais ça n'aurait pas été une si grande perte là, avec son début de saison.
Pas manqué de respect non plus à United, mais crois-moi qu'avec ou sans Nana. Ça ne sert pas à grand-chose au final. Donc.
Oui. Et puisqu'on parle de Nana, j'ai juste envie de dire Havana ou Nana. OK, excusez-moi. Alors, groupe D maintenant, les gars. Groupe D que j'ai devant moi à l'instant. Groupe D, Algérie, Angola, Burkina Faso et Mauritanie. Première impression, moi, je dirais que l'Algérie va dominer ce groupe. Est-ce que je me trompe, Hans?
Non, je ne me trompe pas parce qu'ils sont dans une bonne forme. Là. Dans les matchs de qualification, sur 6 matchs, ils avaient 5 victoires, un match nul. Fait que je pense pas qu'ils vont finir derrière leur groupe comme la dernière CAN, justement. Ils ont fini derrière leur groupe, donc ils vont vouloir se venger de ça. Puis sinon, après le reste, là, il y a Mauritanie qui est quand même correct, qui progresse. La dernière CAN, ils ont montré du progrès dans leur foot de base. Mais oui, l'Algérie devrait sortir premier de ce groupe-là assez facilement, selon moi.
Ouais. Yes, je voulais juste mentionner... Ah, vas-y.
Vas-y, continue.
Ouais, ben moi, c'était par rapport au Cameroun. Le Papé Matessor qui joue pour Tottenham est blessé aussi. Je ne sais pas s'il va être de retour pour la CAN, mais ça aussi, c'est une bonne perte là, du côté du Cameroun. Mais ouais, vas-y pour le groupe D.
Ah oui, je dirais que du côté de l'Algérie, en tout cas, l'Algérie a beaucoup de choses à se faire pardonner. Là. Passer d'une équipe championne en 2019 à une élimination controversée au barrage de Coupe du Monde contre le Cameroun, si on s'en rappelle. Puis après ça, arrive à la CAN, puis termine dernier de son groupe. Donc, je sens que l'Algérie va arriver dans ce tournoi-là avec beaucoup de choses à prouver. Puis c'est une équipe qui est hyper talentueuse. Là. Encore une fois, là, t'es encore Riyad Mahrez qui, oui, on le sait, joue du côté de l'Arabie Saoudite maintenant, mais reste que c'est quand même un des meilleurs joueurs africains. Donc, moi, j'ai très hâte de voir le parcours de l'Algérie, mais je pense pas que c'est l'équipe qui a le plus de pression dans ce tournoi-là. Là, on va revenir plus tard, mais il y a une autre équipe qu'on n'a pas encore mentionnée qui va avoir encore plus de pression à la CAN.
Ah, puis aussi, il y a. L'Algérie va pouvoir compter sur Oussem Aouar, qui a changé de nationalité sportive donc, l'année passée. Ouais, donc, ouais. Il est plus français, il va être avec l'Algérie, donc ça peut aider pour créer des choses offensivement là, de leur côté.
Ouais. Ouais, le gars s'est rendu compte qu'il ne serait jamais sélectionné en France. Donc,
il était sélectionné. Il était sélectionné, c'est juste qu'il a perdu son niveau.
Ouais, mais on s'entend qu'avec l'effectif français actuel, est-ce que... Ah oui, Papé Matessor est sénégalais, oui, c'est ce que je voulais dire. Pardon, Hans, merci de la précision. Donc oui, grosse perte pour le Sénégal et non pas pour le Cameroun. Mais oui, de qui on parlait déjà, excusez.
Aouar,
oui. Aouar, qui, c'est ça, avec l'effectif français actuel, je pense pas qu'il serait sélectionné. Bref, mais oui, il l'a déjà été. Groupe E maintenant, Mali, Namibie, Afrique du Sud et Tunisie. Ça m'a l'air d'un groupe assez ouvert. Honnêtement, il y a la Tunisie qui a fait la dernière Coupe du Monde, mais sinon, je pense que...
Il y a Mali. Le Mali sera une équipe à surveiller. Hein.
Mali, vas-y. Donc, avec le Mali.
Non, mais quand on y pense, c'était en...
Bissouma.
Le Mali est une équipe qui a eu quand même un bon parcours éliminatoire. Là, donc, moi, je m'attends... Honnêtement, je pense que le Mali et la Tunisie vont s'en sortir. Ça va être les deux premiers du groupe E. Là. Je pense que c'est sans équivoque. Là. À mon avis, là. Peut-être que je me trompe. Okay. Mais moi, pour vrai, le Mali, s'il y a une équipe à surveiller, c'est bien elle qui pourrait jouer un rôle de trouble fête. Je ne parle pas pour le groupe, là, mais je parle pour la phase d'élimination directe.
Parfait. Quelque chose à ajouter, Tom ou Hans?
Honnêtement, sur ce groupe, je suis complètement d'accord avec Dou. Par contre, je regarde l'effectif de l'Afrique du Sud et je remarque que c'est un peu décevant. Je m'attendais à ce que la Coupe du Monde de 2010 ait un plus grand impact. Peut-être qu'il est un peu trop tôt pour le dire, mais pour l'instant, je m'attendais à ce que soit le début d'une génération dorée pour l'Afrique du Sud. Pour l'instant, c'est pas vraiment ce que je remarque.
Ouais, puis en plus, c'est un pays qui est assez populeux, là, l'Afrique du Sud. Là, donc, ouais, je suis d'accord avec toi qu'on aurait pu espérer mieux. Terme d'effectif. Hans, d'accord avec ça? Mali, Tunisie?
Ouais, puis juste pour ajouter un fait intéressant, là, tu sais, dans Arcane, l'arbitre qui avait sifflé le match là, à la fin du match tôt, là, genre à la 85e minute.
Ouais.
Là,
oui.
C'était Tunisie-Mali. Fait que j'ai hâte de voir. Ils vont se réaffronter, on va voir s'il y aura une autre dinguerie là, par l'arbitre.
Une autre dinguerie, ça c'est un mot à utiliser. Donc Groupe F maintenant, le dernier groupe de cette compétition, cette CAN. République démocratique du Congo, Maroc, Tanzanie et Zambie. D'où tu parlais de l'équipe qui a le plus de pression dans cette CAN, ben, j'ai deviné que c'était le Maroc parce que avec la demi-finale de Coupe du Monde qu'ils ont fait l'an dernier, veux-tu extrapoler là-dessus?
Ben écoute, t'as bien deviné, Ali. Côté du Maroc, clairement qu'ils arrivent dans ce tournoi-là en étant peut-être l'équipe favorite pour plusieurs personnes en raison de leur parcours historique lors du dernier mondial. Mais par contre, moi, ce que j'ai peur, c'est le fait que est-ce que finalement, on va se rendre compte que c'est un feu de paille? Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 où que vraiment cette équipe-là est à pleine maturité puis que là, ça va être vraiment l'équipe africaine en vogue pour non seulement cette CAN-là, mais aussi pour les prochaines années parce que c'est quand même une équipe qui est très talentueuse. Par contre, moi, la seule affaire qui me fait peur du côté du Maroc, c'est, on l'a vu lors du dernier mondial, des fois, les blessures, là, ça peut payer cher. Là. On l'a vu, là, beaucoup, beaucoup de blessures. C'est normal aussi, je pense qu'il y avait un mondial en pleine saison. Des fois, ça n'aide pas non plus. Là. Mais j'ai hâte de voir à quel point les joueurs marocains vont être en forme ou pas. Mais pour moi, c'est l'équipe qui aura le plus de pression dans ce tournoi-là, clairement, en raison de leur parcours. Puis surtout de voir si finalement c'était juste un feu de paille, qu'est-ce qui s'est passé au Qatar ou que c'est vraiment la meilleure équipe africaine en ce moment.
Mm-hmm. Moi, du côté d'ailleurs, du Maroc, il y a. Ah, vas-y, Tom.
Non, je vais finir votre point sur le Maroc. Hein.
Merci bien de ça. Alors, ouais, moi, il y a Amin Adli du côté de Bayer Leverkusen. Leverkusen qui connaît toute une saison, on le sait, que j'ai bien hâte de voir. Azedine Ounahi aussi, qui avait vraiment bien performé lors de la Coupe du Monde 2022, là, et du côté de Marseille. J'en entends un peu moins parler, mais vraiment, il m'avait impressionné ce joueur, donc j'ai hâte de le voir évoluer aussi.
Oui, et également, c'est un autre joueur marseillais qui avait raté la Coupe du Monde de justesse en raison d'une tirure du gamin croisé intérieur qui est Amin Harit, que moi j'ai hâte de voir, un autre joueur marseillais qui va être à surveiller dans ce tournoi-là. Encore une fois, ben, on connaît les autres têtes d'affiche ici, là, que ce soit Achraf Hakimi, que ce soit Amzraoui, que ce soit Hakim Ziyech qui sont encore là. Il y a Yassine Boulou qui va être devant les buts aussi du côté du Maroc. Donc,
Amrabat
qui, bon. En arrache un peu du côté de United, mais reste que ça va être encore un joueur important au milieu de terrain marocain. Mais pour vrai, ça reste quand même que c'est une belle équipe sur le papier. Mais juste hâte de voir à quel point, juste voir s'ils vont être capables de résister à la pression. Là. Parce que CAN, quand t'es après un mondial aussi incroyable que fait le Maroc, des fois tu peux vivre une déception dans un tournoi intercontinental, comme ça a été le cas pour l'Algérie, qui ça a été au mondial. Sénégal aussi, qui a été un peu décevant au mondial aussi. Mais moi, je suis hâte de voir, comme j'ai dit, le Maroc qui, j'espère en tout cas pour eux qu'ils sont obligés d'avoir un parcours similaire à celui au mondial. Fait que c'est minimum pour eux, c'est minimum demi-finale, voire peut-être finale même.
Ouais, est-ce que tu es d'accord avec ça, Hans?
Ben oui, mais moi je pense que si tu te rends en finale de la Coupe du Monde, d'après moi, les Marocains accepteront pas moins que la finale, même la victoire en finale.
C'est sûr qu'on vise l'or.
C'est ça, je pense que dans leur tête, ils sont déjà en finale, puis ils attendent de voir contre qui ils vont jouer. Ce que moi j'ai hâte de voir, sans aucun doute, là, ils vont se rendre loin aussi. Là. Je suis de même avis. Mais j'ai hâte de voir si le duo Ounahi et Amrabat va être aussi performant que l'autre monde. Que la défense aussi, est-ce qu'elle va être aussi solide? J'ai hâte de voir. T'sais, je suis sûr qu'ils vont plus miser sur leur défensive et leur milieu de terrain que sur leur attaque. Mais je trouve que c'est une équipe vraiment très, très bien composée. Le seul problème qu'il pourra avoir, c'est que les équipes... durant la CAN, les autres équipes africaines ne vont pas avoir peur. Là, ils vont vraiment les viser eux. Puis c'est là qu'on va voir s'ils ont vraiment un mental d'acier. Parce que c'est une équipe solide qui pourra répéter les mêmes prouesses que lors de la Coupe du Monde.
Mm-hmm. Hâte de voir Yacine Bounou également dans les buts. Aussi, d'où tu parlais de Amin Harit, je tiens à dire que ici, où est-ce que je me trouve là, aux résidences universitaires Saint-Urbain, Amin Harit, c'est un maillot qui est accroché là, ici parce que c'est une compétition très populaire aux résidences. Honnêtement, c'est plus décoré pendant la CAN que genre l'Halloween ou Noël, là, donc c'est assez fou. bref, voilà. Allez, donc c'est, ça met la table pour cette CAN 2023 qui se joue en 2024. Je veux savoir votre prédiction qui rend en fait 1, 2, 3 médailles d'or, argent, bronze dans cette CAN. Je vais commencer par toi, Tom, tiens.
Je vais dire Sénégal, Maroc.
Sénégal, et... la médaille d'or?
Oui. Je pense qu'ils sont en mesure de répéter. Maroc va terminer deuxième et l'Égypte va terminer troisième.
Intéressant, intéressant. D'où?
Moi, je vais aller avec le pays hôte. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire va remporter la CAN. Je vois la Côte d'Ivoire remporter la CAN, finale contre le Maroc, puis je vois le Sénégal terminer troisième, puis ça, l'Égypte quatrième. Voilà.
Hans?
Moi, je vois le Maroc l'emporter contre le Sénégal. Puis, bon, troisième position, tiens, je veux dire, Cameroun.
Excellent. Moi, je vais y aller. J'avais le Cameroun en tête. Moi, je vais y aller peut-être un peu une surprise, mais Cameroun va remporter la CAN en finale contre le Sénégal. Et puis, en troisième position, nous aurons la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que l'Égypte va revenir tôt pour que Salah puisse aller à Liverpool. Et le Maroc va décevoir. Voilà. Le Maroc va décevoir. C'est ma prédiction pour ce qui est de la Coupe d'Afrique des Nations qui commence dès demain 13 janvier. Soyez à l'écoute. On va sûrement revenir en fait à Jason Malonron sur cette belle compétition. Ouais. Et maintenant, on peut passer brièvement.
À autre chose, j'ai peut-être un point à amener. Pour les joueurs africains, ouais. Ça fait 3 saisons consécutives que leur saison est interrompu un peu par un tournoi international, des deux CAN et bien sûr la Coupe du Monde l'an dernier, parce que ça va avoir un impact sur leur saison européenne.
C'est possible.
Certainement, là, certainement.
C'est possible, on l'a vu avec la Coupe du Monde, à quel point il y a un effet néfaste sur les blessures. Il y a eu une augmentation définitive significative sur les blessures. Là.
Ouais.
Puis je ne serais pas surpris que ce soit le cas encore une fois après la CAN, que ce soit au mois de mars, même dès que la CAN se termine, au mois de février, à mars, avril, moi je m'attends, oui, à une augmentation des blessures, là, malheureusement.
Mm-hmm. Oui, ben je pense que c'est Hans qui a fait un article là-dessus il y a quelques mois. Là, sur, ouais. Ben, inévitablement, c'est logique, ça vient avec. Tu dis ouais, plus ouais. De matchs, tu as plus de chances d'être blessé. Fait que clairement que ça va avoir un impact. Est-ce que les joueurs de soccer disputent trop de matchs dans un calendrier, dans une saison? Clairement que oui. Mais voilà, on sait tous que c'est pour parce que ça donne de l'argent. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils vont continuer à le faire. Mais ouais, oui, ça va clairement avoir un impact, je pense, sur beaucoup de joueurs africains. Puis Hans, je ne sais pas si tu l'as complété de ton côté.
Ah non, t'as tout dit. Là, ils sont surchargés là, ces temps-ci. Mm-hmm. Fait que ça aide pas, mais écoute. J'espère pour tous eux qu'ils vont pouvoir retourner dans leur club puis être en forme parce que c'est dommage de perdre des joueurs parce qu'ils jouent trop. Il y a quelque chose à faire là, au niveau des instances là, sportives là, pour réguler ça. Mais c'est ouais, ça après là.
Il y aurait moyen de juste transférer le tournoi à l'été pour qu'ils soient en même temps que l'Euro.
Mais c'était ça à la base, hein. C'est qu'on avait peur qu'il pleut trop, en fait. Parce que souvent, le climat africain, c'est ça, là, c'est qu'il y a beaucoup de pluie durant l'été. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est joué durant l'hiver.
OK, OK. Ouais.
Parce qu'avant, c'était l'été, non, la CAN?
Ouais, mais c'est la saison des pluies aussi. Donc,
ouais, c'est ça, la saison des pluies avec beaucoup de précipitations. Voilà.
Ouais, ben, du côté de l'Afrique de l'Ouest, c'est le même. Là. Je pense pas que du côté de l'Afrique de l'Est, parce que dans mon coin. C'est très. Ça ressemble. C'est comme au Qatar, là. C'est 50 degrés et plus, là. C'est dans
Tu dis dans ton coin d'où, donc tu parles de Sorel, là, beaucoup de précipitations.
Non. Ok, pas. T'as pas besoin de shoot ça, ok, d'accord. Je viens de me faire expose. Mais bref.
Mais non, mais ça non, fait combien de temps que tu es retourné d'ailleurs?
Question de main. Au-dessus de 10 ans. Hein.
OK, c'est, beau, c'est dans ton coin lointain. Là.
Dans mon coin de cœur. Voilà, bref.
Ton coin de cœur, c'est bien dit, c'est bien dit. Trêve de plaisanterie, messieurs. On va aller direct brièvement en fait sur le mercato hivernal en Europe. Moi, j'ai à date, il n'y a pas grand-chose qui sont passés du côté du mercato hivernal. Moi, j'ai deux noms en tête. Jadon Sancho, qui retourne à Dortmund. Bonne chose pour lui, parce qu'honnêtement, à Manchester United, il ne s'attendait tout simplement pas bien avec Erik ten Hag. Et Timo Werner, qui est du côté de Tottenham maintenant, pour gagner des titres, a-t-il dit. Et ça, ça m'a fait bien rire. Alors, Tom, toi qui... Ouais, vas-y, d'où? Ouais.
Sinon, un autre fait intéressant aussi, ça, j'ai un peu de la misère à comprendre, c'est l'arrivée de Eric Dier du côté de...
Oui.
Du Bayern, ça, je comprends pas. C'est parce que Harry Kane s'ennuie du côté de...
du Bayern? Est-ce qu'il y a une... je pense bien que c'est le cas. Des fois, il y a des... Il y a des équipes qui font des moves comme ça. Puis je pense que c'est le cas pour le Bayern et Eric Dier. Juste pour activer Harry Kane.
Ça me fait penser un peu.
Je vois pas dans quel monde où est-ce qu'il y a une place sur 11 partenaires.
Ah, tout à fait. Mais ça me fait penser un peu au transfert, je pense, de l'an dernier, là, de Daley Blind au Bayern. C'est un gars qui n'avait pas d'affaires à rejoindre le meilleur club qu'il a jamais été dans sa carrière à l'âge qu'il était rendu puis au niveau qu'il avait. Puis Dier, clairement, n'est pas sur la pente ascendante non plus. Ben, ouais, c'est des genres de transferts que le Bayern fait pour le vestiaire ou je ne sais pas trop, pour acclimater Harry Kane peut-être. Ouais.
Mais Daley Blind...
Il y a une grosse...
pas tout le monde en même temps, les gars. Là.
Bien sûr.
Mais vas-y, Tom.
Vas-y, d'où?
Ben, vas-y, d'où, là.
Non, je dis juste que Daley Blind, cette saison, il y a une excellente première partie de saison là, du côté de la Liga. Là. Il joue avec Giron en ce moment. Là,
c'est vrai.
Il est très bon.
On parle pas du... Ça reste qu'il n'avait pas le niveau pour être au Bayern, puis il a presque disputé aucune minute aussi. Là, fait que, bref.
C'est pourquoi qu'il avait été là?
Ben,
il est Blind... Du renfort, je ne sais pas trop, de la profondeur. Là.
Beaucoup de blessures du côté du Bayern après la Coupe du Monde.
Ouais. Okay, ouais.
Même malgré ça, là, il n'avait pas joué dans, tant que ça. Mais c'est le genre de transfert que le Bayern fait des fois pour, je ne sais pas, de l'expérience, du leadership dans le vestiaire, bref. Ouais. C'est une bonne question. Mais Timo Werner, Jadon Sancho, quelques mots là-dessus, Hans?
Pour Sancho, je suis très content là, parce que j'ai jamais trop aimé là, ten Hag, là, honnêtement. Je trouve qu'il... un but de sa personne. Il se prend peut-être un peu pour un autre. Là. Il y avait déjà la saga Cristiano Ronaldo. Puis là, on dirait qu'il profite de son pouvoir d'entraîneur pour un peu faire ce qu'il veut avec ses joueurs. L'affaire de Sancho qui ne permet pas d'utiliser les trucs, le centre d'entraînement de l'équipe première de Manchester United. Il ne peut pas parler à ses coéquipiers. Il ne peut pas prendre la douche. Il doit aller dans les vestiaires des jeunes. Je trouve que c'est un peu absurde. Là. Donc, je crois qu'il peut se relancer à Dortmund. Puis, durant les tests physiques et médicaux, il avait l'air très content là, de retourner là-bas et retrouver ses amis, là, dont Marco Reus. Pour Timo Werner, bon, s'il va aller gagner des trophées, je pense pas que c'est à Tottenham, mais il peut faire ce qu'il veut. Là. Regarde, c'est pas, je pense pas que Tottenham va devenir une meilleure équipe avec lui, mais ça peut aider, tu sais, Son ou Kulusevski. C'est un attaquant de plus qui a de la vitesse. Ça peut les aider pour maintenir leur place pour aller dans compétitionner pour l'Europe l'année prochaine. Puis un autre transfert, c'est Chelsea. Jan Martin qui est allé aussi du côté de Dortmund avec Jadon Sancho. Ça peut être bon pour lui parce qu'il ne joue pas trop à Chelsea. Donc, c'est un prêt qui est raisonnable. Donc,
qui va à Dortmund, je manque une note.
Matin, le latéral.
Ah, ouais.
Jan Matin, ouais. En fait, tu dis qu'il n'a pas joué, mais je n'ai pas souvenir de l'avoir vu vraiment, là, honnêtement.
Il jouait, mais comme il rentrait, il reste à la 83e, donc pour moi, il n'a pas joué. Là.
J'ai l'impression que Chelsea fait ça avec beaucoup de jeunes joueurs, là, n'est-ce pas? Et les faire très peu jouer.
Ouais, mais écoute, je crois en Pochettino, je crois en lui.
Parfait. C'est bon, crois en tes rêves, Hans. Je vais pas m'interposer là-dessus. Puis oui, Timo Werner, tu sais, Tottenham n'avait pas vraiment de striker. T'sais, Richarlison, pour moi, n'est pas un vrai numéro 9. Donc, je pense que niveau positionnement, c'est une bonne addition. Est-ce que ça va être la solution du côté de Tottenham, Timo Werner? Je ne crois pas. Là, il n'allait pas bien du côté de Leipzig. Là, fait que à suivre de ce côté-là. Maintenant, on va suivre ça, le reste du mercato hivernal. Puis, on va se pencher du côté du tirage de la Ligue des champions qui a eu lieu.
Il y a un autre transfert qui m'a...
Ouais, vas-y.
Qui m'a titillé, celui de Radu Dragusin.
Ouais.
Un défenseur central, je ne me trompe pas, roumain, qui s'en va à Tottenham en provenance de
Genoa, c'est ça?
Genoa, oui.
Ouais.
J'essaie de franciser.
Merci, mais tu fais bien.
Merci. Défenseur de 21 ans, connaît une bonne saison en Italie. Et si je ne me trompe pas, c'est un 30 millions. Donc, un transfert tout de même raisonnable. Je pense que ça pourrait aider l'équipe. Ange a réussi à faire des miracles avec ce club-là depuis le début de la saison. Donc, peut-être que ça pourrait être un peu, je ne sais pas, la pièce manquante, mais pour aider la charnière défensive des Spurs.
Oui, donc avec Dragusin, qui est un très beau nom en passant, et Werner, eh bien, on se solidifie là, côté de Tottenham. Bon, maintenant, tirage UCL, ben, Ligue des champions, excusez. Ça fait longtemps qu'il a eu lieu, mais on va faire un bref retour là-dessus. Honnêtement, un peu décevant. Il y a quelques confrontations alléchantes, mais pas tant que ça. Mais c'est quand même un point positif, je pense, parce que ça veut probablement dire que lors de la prochaine ronde éliminatoire, là, on va avoir de très, très gros duels, probablement. Mais voilà, Manchester City-Copenhague. Je ne pense pas qu'on aura besoin de revenir là-dessus. Le Manchester City est les grands favoris. Real Madrid-Leipzig, ça va être intéressant à suivre, mais je crois aussi qu'il a, même si Leipzig est une équipe intéressante, Real Madrid devrait s'en tirer assez aisément. Bon, Paris... Saint-Germain, Real Sociedad, j'ai vu ça circuler beaucoup comme quoi la Real Sociedad pourrait surprendre le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est quelque chose de possible selon toi, Adou?
Franchement, non. Je pense pas. Écoute, déjà que le PSG, là, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va avoir des choses vraiment à prouver et j'ai vraiment l'impression qu'ils vont progresser avec Luis Enrique. Là, vraiment, ce que moi, j'ai hâte de voir, c'est... Bon, je suis désolé si j'en parle en ce moment, là, mais là, la saga Mbappé, là, okay? Si Mbappé joue, si mettons Mbappé est dans ses derniers moments avec le Paris Saint-Germain, je ne pense pas qu'il peut partir du PSG avec une défaite en huitième de finale contre la Sociedad. Donc, pour cette raison-là, et aussi pour le fait que, écoute, le PSG s'en est quand même sorti de façon miraculeuse dans un groupe de la mort qui était quand même un groupe ultra fort, là, celui le fameux groupe F, là, celui Paris Saint-Germain,
Newcastle, Milan
et l'AC Milan. Bref, moi, je pense qu'ils vont sortir contre la Sociedad. Là, clairement, ils ont le meilleur effectif. Là, malgré que la Sociedad a quand même eu des bons moments cette saison en Ligue des Champions et aussi en Liga, mais vu que la Sociedad joue dans une Liga compétitive en ce moment où qui devront jouer des plus gros matchs que le Paris Saint-Germain jusqu'à ces confrontations-là. Je m'attends à ce que le PSG s'en sorte, mais quand même reste que je pense, mettons, si on peut mettre des pronostics, je m'attends à 60% de chances de victoire du Paris Saint-Germain.
60% quand même, tu laisses donc quand même 40% à la Sociedad.
Mais je pense pas que ça va être... Je pense pas que le PSG est si supérieur que ça à la Real Sociedad. Elle est meilleure, oui, sur le papier, mais quand même, je pense que c'est plus équilibré qu'on pense. Puis aussi, le PSG a jamais un historique de s'écrouler sous la pression en Ligue des Champions. Donc, c'est pour ça que je mets à 40% de chances de victoire pour la Real Sociedad.
Ouais, mais je suis quand même d'accord avec ce pourcentage-là parce que tu l'as dit, c'est le genre de piège dans lequel le PSG pourrait tomber, je pense. Hans, tu voulais, je pense, dire. Ouais, aime tomber. Ouais. Hans, je pense que tu voulais parler.
Ben, pour le match PSG-Real Sociedad, ben, je pense pas que Paris devrait trop être inquiété. T'sais, on ne sait jamais avec eux là, tout le temps, mais je pense que ça va plus être compliqué pour eux à l'extérieur. Donc, ça va être peut-être une victoire de 1-0, peut-être un match nul, peut-être un 2-1. Ça peut être 5-6-0. Mais tu sais, la Sociedad, c'est pas l'équipe la plus en forme non plus. C'est quand même juste 8 victoires en 19 matchs en Liga. Donc, le PSG devrait s'en sortir. Je pense que les matchs, là, on n'est pas encore en direct, mais les matchs les plus chauds à regarder, qui vont être plus intéressants, ça va être Naples, Barça, puis Inter. Ouais.
Ben, parlons-en. Inter Atlético, qu'est-ce que tu favorises?
J'irai avec Atlético, surtout si Antoine Griezmann peut continuer sur sa lancée. Là.
C'est vrai qu'il est en feu, ce Grisou.
Ouais.
Ouais. Moi, donc, je
vais... Ballon d'or, quelqu'un.
Ah, oh, ça y est.
Bon, là, tu vas fâcher d'où, là. Mais ouais, moi, l'Atlético, c'est un bon choix. Je trouve que c'est un match-up qui est très intéressant. L'Inter Milan est vraiment dominant en Serie A. Mais quoi que la Juventus n'est pas loin d'eux, là, mais je trouve que c'est une belle équipe, l'Inter Milan. L'Atlético aussi est une belle équipe, mais moi, je vais y aller en faveur de l'Inter, voilà. D'où, je pense que tu avais ton mot à dire là-dedans.
Ouais, non, moi, je m'excuse, mais l'Atlético Madrid, c'est trop de up and down pour moi. Là, donc, oui, je comprends que Griezmann et Morata ont un excellent début de saison, mais reste que... L'Inter Milan cette saison a un duo très prolifique. T'as Lautaro Martinez que moi je suis pas le plus grand fan de ce mec-là, mais je suis quand même faut je vais l'admettre, là, le gars a un excellent début de saison en Serie A. Je m'attends
un des meilleurs attaquants d'Europe cette saison.
Ouais, c'est ça. Donc on parlait des prouesses de Griezmann, mais Lautaro Martinez et aussi un des meilleurs attaquants en Europe cette saison. Donc. Puis écoute, je trouve que l'Inter Milan, c'est une équipe tellement bien équilibrée. Là, puis je vois pas comment qu'ils pourraient se sortir. Ben, après, je ne sais pas comment, non pas se sortir, mais qu'ils s'écroule sous la pression de l'Atlético Madrid. Surtout que j'ai plus l'impression que je vois plus l'Inter Milan gagner à Madrid que Madrid battre l'Inter de Milan à San Siro. C'est pour ça que j'ai avantage pour l'instant.
Très, très intéressant comme choix. Dortmund, PSV. Bon, Dortmund, c'est sorti du groupe de la mort, donc techniquement, devrait gagner. Mais le PSV, attention, qui ont une équipe quand même très alléchante. Ce qui nous mène à Arsenal-Porto. Tom, tu portes un chandail d'Arsenal présentement. Que penses-tu de cette confrontation? Arsenal devrait s'en sortir, n'est-ce pas?
Oui, écoute, Arsenal devrait en théorie s'en sortir. Par contre, dans les dernières semaines, en fait, depuis le match contre Liverpool, je suis un peu avant, c'est loin d'être convaincant. Mm-hmm. Par chance, la ronde des 16 commence seulement en février, je ne me trompe pas.
Les entours 13 février.
13 février.
13 février.
Donc du côté Arsenal, on a le temps de se reprendre, on a le temps d'aller chercher un attaquant. Mais ça devrait battre Porto aisément et ça devrait pas se terminer. Tu sais, ça deux, c'est aussi.
Cette fois-ci. Mais écoute, par contre, moi, les derniers matchs d'Arsenal me font peur. Là. Je suis pour toi, Tom, là, mais je trouve pas que c'est hyper convaincant. Là, qu'est-ce qui se passe du côté de.
C'est très loin
d'être. Écoute, Arsenal, c'est aucune victoire lors de leurs 4 derniers matchs. Et 2 défaites en 2 semaines contre Liverpool. Ça, là. Pas 2 défaites. Une défaite. Une défaite en 2 semaines contre Liverpool. Ça, c'est plaisant. Là. Si je suis pas objectif.
Puis des défaites donc, à domicile en plus. Là.
Ouais.
Que ce soit contre.
C'était 2 buts dans les genre 5 dernières minutes. Tu t'es réglementaire. Là, c'est.
Ben, ça prouve un manque de concentration de leur part.
Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. voilà, donc je pense quand même. Ouais, vas-y.
Est-ce qu'on parle de Middlesbrough?
OK.
Nous, on a perdu 1-0, puis on sait très bien que le match retour, ça va être correct. Là. Puis Just saying, de même, là, nous, Liverpool, on n'a pas perdu contre eux encore. Puis écoute,
okay.
On n'est pas encore une équipe qui aspire à la Premier League cette année. Vous, oui. Puis pour l'instant, là, pour une équipe qui veut gagner la Premier League, c'est mollo. Fait que...
Ouais, je suis d'accord.
Avec l'attaquant Zinchenko. Mais bref, continuons.
on se lance des couteaux là, en début 2024. Et j'aime ça, les gars. Alors, je pense quand même qu'Arsenal va sortir gagnant contre Porto. Ce serait une catastrophe si ce n'était pas le cas, tout comme ce serait une catastrophe si le PSG ne sortait pas la Sociedad. Dernière confrontation qui est peut-être la plus intéressante, FC Barcelone contre Naples, et aucune des deux équipes, j'ai vraiment confiance en eux. Naples qui ont champion en titre de Serie A, mais ça ne va pas bien là, dernièrement, et Barça... C'est coup-ci, coup-ça, beaucoup de haut et de bas. D'où qui tu prends là dans cet affrontement Naples-Barça?
Hey, franchement, si tu m'avais posé la question il y a un mois, je t'aurais dit clairement le Barça. Mais en ce moment, j'en ai aucune idée. Là. Pour vrai, je pense qu'encore une fois, je vais aller avec le Barça, mais le Barça est tellement pas convaincant, les gars. Là. J'ai vraiment l'impression, OK, puis ça, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je suis persuadé que Xavi n'est pas le bon entraîneur pour cette équipe-là. Moi, je pense que Xavi n'est pas un bon entraîneur. J'ai l'impression qu'il ne réussira pas à amener cette équipe-là à une autre dimension. Écoute, en plus, il y a des blessures importantes quand même du côté du Barça. Là. Ter Stegen, qui pour moi a été le meilleur joueur du Barça l'année passée, qui a même été le meilleur joueur du Barça au courant des 2-3 dernières années, à mon avis. En fait, depuis le départ de Messi, là, pour moi, ça a été le meilleur joueur du FC Barcelone. Il est absent pendant un bout. Là, tu as Cancelo aussi qui est blessé. Donc là, ça va être intéressant de savoir s'il va être de retour d'ici cette confrontation-là. Bon, on sait que Gavi ne reviendra pas avant l'année prochaine. Puis, c'est encore une fois, c'est une équipe qui manque de... Il manque de cohésion là, par moment. Là. Puis surtout, j'ai l'impression que l'attaque, tu as Lewandowski qui ne va pas bien cette saison. Là, tu avais Ousmane Dembélé qui aurait été vraiment utile pour le FC Barcelone qui était parti l'été dernier. Là, tu as Ferran Torres.
Ferran Torres, ça va pas bien non plus.
Ça va pas bien non plus. Là, tu as Joao Félix qui est pas si pire. Joao Félix qui est pas si pire. Mais par contre, Joao Félix, le problème, on connaît la situation financière du FC Barcelone. Puis Joao Félix, en ce moment, et Cancelo, c'est deux joueurs qui sont en prêt. Donc, est-ce que ça se peut que Barça perde deux joueurs importants dans leur effectif parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir les racheter. Donc, c'est ça, malheureusement, du côté de Barcelone. Mais pour répondre à ta question, je pense que je vais y aller avec le Barça. Mais je te dis, j'ai tellement pas confiance sur le Barça que je donne une probabilité de 55% de victoire au FC Barcelone. C'est pour vous dire à quel point je ne trouve pas le Barça.
55%, c'est...
Ouais.
Donc, c'est non seulement précis, mais c'est aussi... c'est vraiment digne d'un mathématicien, d'où félicitations. Je suis assez d'accord avec ça. J'ai léger avantage au Barça. Naples qui reste une belle équipe, c'est juste que ça va vraiment pas bien cette saison. Tom, Hans, vos prédictions.
Ben moi aussi, j'ai plus tendance à pencher envers le Barça. Juste à cause que du côté de Naples, ça va vraiment pas bien. C'est ainsi 9e en Serie A. Du côté du Barça, écoute, l'attaque est anémique. Jeudi, en fait, ils ont remporté 2-0 en Copa del Rey. C'était la première fois depuis le 19... c'est pas vrai, le 16 septembre qu'ils remportaient un match par au moins 2 buts. Donc, vraiment, l'attaque du Barça est complètement anémique depuis un bon bout.
Et plusieurs semaines.
Oui, plusieurs semaines, un bon bout. Du côté, je pense que vraiment, ça les aide pas, les blessures n'aident pas. Mais par contre, je pense que c'est un peu sévère de dire que Xavi n'est pas un bon entraîneur, justement. Tu as dit Ter Stegen qui est blessé et qui a été le meilleur joueur du Barça depuis les 3 dernières saisons. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour abandonner sur Xavi. C'est un peu ma parenthèse là-dessus. Barça va l'emporter, selon moi, en 8e de finale.
Ouais, Ter Stegen qui est blessé, puis aussi Ronald Araujo, voilà, l'Uruguayen qui avait connu une saison fabuleuse l'an dernier, puis n'est plus le même cette année. Hans, Barça aussi, toi?
Ouais, Barça n'a pas beaucoup, juste parce qu'ils sont moins pire que Napoli en ce moment. Donc, je leur donne ce petit avantage-là. Mais oui, c'est ça. Araujo, justement, il y a un manque de constance là, dans ton jeu. On dirait que je ne le reconnais plus. C'est sûr que perdre Terstegen, ça fait mal. Puis aussi Gavi, qui était quand même l'âme de cette équipe-là. Malgré que ce ne soit pas lui qui va te faire gagner parce qu'il marque des buts, mais c'est vraiment sa présence sur le terrain qui est peut-être rassurante ou qui énergise les autres. Lewandowski, lui non plus, qui il a oublié comment marquer des buts, comment se déplacer. Donc, c'est vraiment plein de choses qui font en sorte que le Barça aujourd'hui, c'est plus le même, mais je leur donne l'avantage. Puis pour revenir à Xavi, oui, c'est pas que c'est pas un bon entraîneur, mais je pense qu'il a perdu le vestiaire. C'est de la... Juste parce que, comme on dirait, les joueurs. La vague Xavi a déjà fait son temps. Maintenant, ils sont plus trop impressionnés ou sont plus tant prêts à se battre. On voit qu'il y a un manque de combativité sur le terrain, il y a un manque de compréhension sur le jeu. Donc, je pense qu'il faudrait commencer peut-être à chercher le successeur à Xavi. Mais non, si on vient à Barça gagne.
En fait, le Barça a besoin d'un entraîneur d'expérience. C'est surtout ça, je pense, qu'ils ont besoin en ce moment. Parce que c'est quand même fou, il y a un an, ils étaient champions d'Espagne. Ça a bien été pour le FC Barcelone. Puis, moi, en tout cas, personnellement, quand je voyais les acquisitions que le Barça avait faites lors du dernier mercato estival, en réussissant à avoir Joao Félix et Joao Cancelo après. On a cherché un gars comme Gundogan qui venait de remporter un triplé avec Manchester City. T'avais tes jeunes milieux de terrain en Gavi et Pedri qui commençaient à gagner de plus en plus de confiance et qui commençaient à devenir des titulaires du côté de Barcelone. Tu sais, t'as quand même une équipe qui, sur le papier, pour moi, je pensais même qu'elle pouvait être meilleure que le Real Madrid en début de saison. Puis, malheureusement, pour des raisons, pour plusieurs raisons différentes, finalement, réussi à avoir un début de saison moyen, puis même en Ligue des Champions, c'était pas extraordinaire. Oui, le Barça a terminé premier de son groupe, mais reste que c'était pas fameux. Là. Vraiment, là, c'est loin d'être la même équipe que celle qu'on avait vue l'année passée. Là.
Ouais.
Yes. Bon, sur ça, les gars, merci pour tout ceci. Donc, on surveille la Ligue des champions qui commencera le 13 février pour ce qui est des huitièmes de finale. Et ce sera aussi la dernière fois qu'on aura un format de Ligue des champions de la sorte parce que dès l'an prochain, le format va changer. Et il y a aussi la Super League. La Super League, c'est ça?
Ouais,
Super League. Super League, voilà. J'ai eu un blanc pendant un instant qui se pointe le bout du nez. Donc, à voir. Mais pour finir ce podcast de belle façon, j'aimerais que vous me disiez là, un moment marquant footballistique de l'année 2023 et aussi votre joueur de l'année sur l'année civile. Je ne sais pas si vous avez tous quelque chose en tête ou sinon je peux commencer. Tiens. Moi, un moment, il y a certainement que quelqu'un va parler de Manchester City, mais moi, je vais aller avec un moment qui m'a marqué en 2023. C'est la retraite du grand Zlatan que je voulais mentionner. Un géant du football qui nous a quittés. Ça m'a beaucoup ému quand j'ai vu son hommage à l'AC Milan, quand il a pleuré. Voir ce lion pleurer aussi, c'est quelque chose. En dehors du terrain, en conférence de presse, sur le terrain, quel grand joueur qui a une longévité exceptionnelle, prendre sa retraite à 41 ans en Europe, passer par plein de ligues. Oui, il n'a pas de Ligue des champions, mais ça reste un très grand du football du 21e siècle. Un des meilleurs attaquants de pointe, je pense, de sa génération. Donc, pour moi, ça a été un des grands moments de 2023, la retraite de Zlatan Ibrahimovic. Et puis, joueur de l'année, il y a quand même plusieurs candidats. C'est une bonne question. Je vais essayer d'être un peu original et d'y aller avec Harry Kane, tiens, qui a mené Tottenham sur ses épaules malgré que ce n'était pas une grande saison l'an dernier et qui est exceptionnel avec le Bayern Munich. Alors, je laisse la parole à... On va y aller avec Tom, mettons. Joueur de l'année et un moment marquant.
Bon, je suis sûr qu'il y a de moment marquant. Vous attendez quelque chose d'Arsenal, que je vais vous surprendre. Et je veux dire, l'arrivée de Messi à MLS, je pense que c'était un grand moment pour... pour le soccer nord-américain. Je pense que la MLS a monté d'une coupe de coche dans l'intérêt des Européens seulement avec l'arrivée de Messi. C'est pas arrivé en 2023, mais juste avoir l'opportunité de peut-être voir Messi à Montréal, je pense que c'est un moment que je ne pensais pas pouvoir vivre dans ma vie et que j'aimerais beaucoup vivre en 2024 et pour revenir sur le terrain, Messi, on voit qu'il domine complètement la MLS, on l'a vu en League Cup également. Il y a peu de matchs qui le joueur MLS transportait de l'Inter Miami sur son dos, et avec l'arrivée de Messi, ça a aussi amené l'arrivée d'autres grands joueurs du Barça, Jordi Alba, Sergio Busquets et maintenant Luis Suarez. Donc vraiment
la maison de retraite du Barça.
La maison de retraite du Barça, l'Inter Miami qui risque de dominer la prochaine saison de la MLS. Et pour mon côté, joueur d'année, ben je vais aller avec un choix facile, Kai Havertz. Plus sérieusement, Erling Haaland, qui a battu le record du plus grand but dans une saison l'an dernier en Premier League, été absent lors de la demi-finale et de la finale de la Ligue des Champions l'an dernier pour City, mais qui a complètement mené City jusqu'à où ils se sont rendus. Et oui, cette saison, c'est un peu plus tranquille, quelques blessures, mais quand même assez dominant du côté de Haaland.
Hans, mais ouais. C'est bon choix, Haaland. Honnêtement, choix évident, mais vas-y, Hans.
Ouais, moi, le moment de l'année, là, c'est pas un moment...
Un moment marquant, pas nécessairement ton moment de l'année. Là, mais...
okay, ouais, un moment marquant, là, c'est le départ de Mason Mount.
Tabarouette!
Écoutez, parce que...
Ouais, tu me surprends, là.
Non, mais ça m'a marqué parce que moi, dans ma tête, là, mais seulement, ça allait être le Frank Lampard de Chelsea. Ça allait être le prochain... la prochaine image de Chelsea. Tu sais, il a quand même fait rêver en 2021 avec la Ligue des Champions. Mm-hmm. Celui qui allait porter le brassard, celui qui allait être le joueur. Tu sais, quand on pense à Chelsea, on pense à lui, tu sais, Reece James. Et de le voir partir, surtout pour un rival, tu sais, dans la même ligue, Manchester United, c'était quelque chose c'était incompréhensible, mais tu sais, vous voulez, c'est au niveau de son salaire et tout, après, tu sais, on peut être d'accord, pas d'accord, mais c'est vraiment ça qui m'a marqué, parce que dans ma tête, là, je voyais déjà comme le futur de Chelsea qui passait par lui avec le brassard et tout. Puis, joueur de l'année, tu sais, pour faire différent, là, ben, il y aurait Rodri dans ça, mais pour faire vraiment...
Ouais.
Et je le pense vraiment, ça serait John Stones. Parce que John Stones a vraiment, genre, tu sais, c'est pas le plus élégant, mais comment il a changé son style de jeu pour permettre à City d'atteindre d'autres échelons, d'aller loin.
En jouant au milieu, hein.
Exactement. On peut dire, ah, c'est facile parce qu'avec Pep Guardiola, il y a des bons joueurs, mais pour un défenseur central, de se retrouver au milieu, un joueur qui est toujours habitué d'avoir le jeu face à lui, qui soit capable de jouer avec d'autres jeux, qui soit capable de faire les performances comme il l'a fait, ça a vraiment aidé justement City à faire remporter le triplé. Puis surtout, il a montré que c'est plus qu'un défenseur central. Il a d'autres aptitudes. Mm-hmm. Puis j'ai vraiment aimé ça dans son jeu. Je pense que sans lui, je pense pas que c'est le même City. Donc, ce serait aujourd'hui, ou peut-être découvert de l'année, peut-être pas joueur de l'année parce que c'était pas wow non plus, mais découvert de l'année, ce serait vraiment lui parce que j'ai vraiment aimé sa conversion là, de défenseur central à milieu défensif.
Mm-hmm. Écoute, Anne, c'est des choix très originaux, faut te donner. Ouais. 2023, c'est la dégringolade de Mason Mount et puis John Stones, très bon choix, tu as mentionné.
Ouais, aussi. Ouais, John Stones.
Ouais. Et je suis curieux de voir d'où va aller avec Kylian Mbappé pour son joueur de l'année. J'ai hâte de voir. Mais vas-y, d'où?
Non, malheureusement, non. Mais je vais aller d'abord avec mon moment de l'année. Ouais. Pour moi, honnêtement, c'est le match qui m'a le plus marqué, je dirais, depuis les dernières années. Pour moi, c'est le match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions entre City puis le Real Madrid, la démonstration de Manchester City à l'Etihad Stadium. Je pense que ça faisait longtemps que je n'ai pas vu une équipe autant marcher sur une autre équipe dans un aussi gros match que City contre le Real.
Pas n'importe quelle équipe aussi. Là.
On parle d'une équipe qui avait battu de façon extraordinaire en 2022, qui avait réussi même à les dominer, mais que City avait quand même réussi à aller chercher le match nul du côté de Bernabéu, surtout en match retour. Victoire de 4-0, Bernardo Silva qui marque des buts extraordinaires, bref, qui réussit à dominer de A à Z cette équipe du Real Madrid, qui est quand même une équipe qui était une équipe très expérimentée, qui était l'équipe championne en titre à ce moment-là. Et pour moi, je pense que c'était la performance la plus dominante que j'ai vue sur le terrain de la part d'une équipe depuis... Honnêtement, je serais prêt à dire depuis la remontada du Barça contre le Paris Saint-Germain. Pour vous dire qu'il n'y a pas de problème d'une équipe de la sorte. Le Real Madrid, ce n'était pas compliqué. Là. J'avais pitié. Ils n'étaient même pas capables de sortir de leur zone. Genre, c'était pour vous dire à quel point que City avait une domination incroyable sur tous les aspects du jeu sur le Real Madrid. Puis au point où Ancelotti n'avait plus aucune réponse, Benzema n'avait pas de ballon, Vinicius n'avait pas de ballon non plus. Puis pour moi, c'est mon moment. C'est juste pour vous dire à quel point que ça venait de prouver que Manchester City était la meilleure équipe de loin en 2023 cette année, à ce moment-là. Et pour mon joueur de l'année, bon, ce sera pas enregistré. Ça va être un autre joueur différent, puis on l'a pas nommé. Mais Jude Bellingham.
C'est un de mes choix également.
Je l'avais en tête.
Meilleur joueur de Bundesliga à 19 ans, passé à un match de remporter la Bundesliga avec Dortmund. Malheureusement, on sait qu'est-ce
que c'est.
Mettre fin à la séquence du Bayern qui a remporté la Bundesliga chaque année depuis 2013. Puis, par la suite, se retrouve un gros transfert de 100 millions du côté du Real Madrid. Par la suite, on connaît le début de saison absolument incroyable de Jude Bellingham du côté du Real Madrid. Là, c'est 17 buts en 23 matchs, dont 13 buts en Liga, 4 buts en 5 matchs en Ligue des Champions. Littéralement produit à marque quasiment comme un vrai numéro 9 du côté du Real Madrid. Puis moi, qu'est-ce qui m'a vraiment impressionné, c'est deux choses. La première, c'est le fait que Jude Bellingham, on avait parlé un peu plus tôt de pourquoi ça n'a pas fonctionné Jadon Sancho à Manchester United. Mais Bellingham l'a expliqué, lui, un peu expliqué pourquoi ça n'a pas marché pour lui, pour Sancho à Dortmund, puis que lui, ça fonctionne au Real Madrid, c'est qu'il avait dit que si Bellingham partait du côté, que ce soit de Liverpool ou d'une autre équipe en Première Ligue, il serait retrouvé dans sa zone de confort puisqu'il est anglais. Puis à ce moment-là, quand tu te retrouves dans les zones de confort, ben, tu te retrouves à avoir plus de distractions, tu te retrouves à être avec tes proches, avec tes amis. Donc, c'est fait que tu n'es pas concentré à 100% sur le jeu, puis ça a un impact sur tes performances sur le terrain. Et Bellingham, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Qu'est-ce qui est extrêmement rare? Là, c'est très rare que tu vois des Anglais prometteurs partir du côté de l'Espagne qui décident d'aller hors de sa zone de confort, d'aller au Real Madrid, d'avoir le numéro 5 qui était l'ancien numéro des Zinedine Zidane et de Raphaël Varane aussi, qui est un autre joueur qui a eu un gros impact du côté de Madrid, puis que finalement il réussit à produire de la sorte, puis qu'en plus, fait oublier que le Real Madrid n'a pas de numéro 9 depuis le départ de Karim Benzema. Donc, c'est fou, hein. Pour vrai, l'année 2023 de Bellingham est incroyable, puis Bellingham en ce moment est un des favoris pour porter le Ballon d'Or 2024, donc ça va être intéressant d'avoir sa fin de saison. Mais pour vrai, Jude Bellingham, saison incroyable, il a seulement 20 ans, dominé de la sorte, non seulement à Dortmund, mais surtout au Real Madrid, qui est considéré comme le meilleur club au monde. Chapeau à lui, pour vrai, c'est rare de voir un jeune joueur à cet âge de dominer de la sorte. On a vu Kylian Mbappé dominer en Coupe du Monde à 19 ans, avoir un grand début de carrière, mais pour moi, Bellingham, c'est encore plus impressionnant qu'est-ce qu'il fait, parce que Mbappé, lui, était dans sa zone de confort à Paris. Puis bon, on ne peut pas comparer non plus Coupe du Monde club, mais reste quand même que qu'est-ce que Bellingham a fait, c'est digne des plus grands.
Très bon choix, Jude Bellingham. Et puis aussi, dans l'affaire que tu parlais avec Sancho, il y a une question d'attitude également. Je pense que l'attitude de Jude Bellingham est peut-être plus professionnelle également. Mais bref, très bon choix. Très bon choix pour le moment et les joueurs à tous. Je pense que c'était assez original et des très bons choix. Maintenant, si ça vous tente, j'ai fait un petit quiz résumer cette année 2023. Cinq petites questions, finir ça de façon ludique. Alors, comment on va procéder? J'ai pensé que pour répondre, Tom, tu dois dire Tottenham. Hans, pour répondre, tu dois dire Arsenal. Et Dou, pour répondre, tu dois dire Man U. Donc, à ce moment-là, Zari, le premier qui dit le mot aura le premier droit de parole. Est-ce que vous êtes prêts pour ce quiz 2023?
Je suis
prêt. Alors, la première question, c'est une facile. Qui a terminé l'année 2023 avec le plus de buts et combien?
Man United.
Doit aller.
Cristiano Ronaldo, puis je pense que c'est 57.
Arsenal.
Oui, Hans Dordepic.
Cristiano Ronaldo avec 54.
Cristiano Ronaldo avec 54 buts, c'est une bonne réponse. Non. 54 buts en 59 matchs. On a un point pour Arsenal, mais vous avez compris. Deuxième question. Manchester City a remporté la Ligue des Champions 1-0 contre l'Inter Milan. Qui a marqué le seul but de cette finale?
Man United.
Je crois que c'est Tom qui l'a dit en premier.
Je pensais que c'était moi.
J'ai entendu
Tottenham. Ton retard de carrière, surtout.
C'est triste.
Anne, tu t'as entendu qui en premier?
Je pense que c'est Tom aussi. J'ai entendu le Tottenham.
Je pense que c'est Tom en premier.
Donne-lui le point.
Rodri.
C'est la bonne réponse. Alors, Manu, toujours pas de point pour Man United. C'est surprenant. Alors, troisième question. Napoli est devenue championne de Serie A en 2023. À quand remontait leur dernier titre en Italie?
Tottenham.
Oui.
93.
Mauvaise réponse.
Man United.
Ouais, vas-y.
86.
Non. Hans, dernier droit de réplique.
97.
C'était 1990. Personne n'a le point pour cette question. Il en reste deux, là. Et seulement Hans et Tom ont des points. Quels sont les quatre joueurs du CF Montréal à avoir joué plus de 2000 minutes en MLS en 2023?
Arsenal.
Hans, vas-y.
Quels sont les quatre joueurs? Quand on parle de joueurs, est-ce qu'on compte les gardiens?
Oui, on compte tous les joueurs. Okay. Quatre qui ont joué plus de 2000 minutes.
OK. Chouanière.
Oui. En fait, je ne vais pas dire oui ou non.
Ben, Chouanière, Sirois, Waterman et je veux dire Gabriel Corbeau.
C'est une bonne réponse.
Non. Oh, très fort.
C'est une bonne réponse, très fort. Hans qui prend les devants 2-1 au grand désespoir de Doyle. OK, dernière question, les gars. J'en ai seulement 5, malheureusement. À quand remonte le premier match de Lionel Messi avec l'Inter Miami? Je veux la date.
Oh.
Man United?
Oui.
Hop là, ça va être au hasard. 21 juillet.
C'est une bonne réponse, Dou. OK, Dou. Question supplémentaire pour un point de plus. Qu'est-ce qu'a fait Messi dans ce match-là?
Marquer un coup franc.
Mais encore?
Marquer but coup de la victoire.
Ouais, mais le coup franc, c'est passé quand?
C'est-tu passé quand il est rentré? Parce que je sais qu'il est rentré en cours de jeu, me semble.
Ouais.
Puis il a marqué un coup franc, je pense que c'était proche des arrêts de jeu. Peut-être que je me trompe, hein?
Ben, Hans, veux-tu compléter, Hans, la réponse de Joe?
C'est pas dans la dernière minute de jeu.
C'était dans les arrêts de jeu, exactement. Je sais pas si c'était la dernière, mais dans les arrêts de jeu. Mm-hmm. Fait qu'écoute, c'était une bonne réponse combinée pour vous deux. Et c'était contre qui, ce match-là? Je sais pas si on l'a dit. À Ligue Cup?
C'était-tu contre...
C'est pas Nashville.
Non, c'était une équipe mexicaine.
Ah oui.
Tottenham?
Oui.
Tigresse?
Non. Il s'agissait de Cruz Azul.
Ok, c'était difficile. Non, moi, j'ai juste fait que Thomas a dit Tottenham, c'est juste pour ça.
En tout cas, c'est ce qui complète le quiz. J'espère que vous avez bien aimé, les gars.
Ah ouais, j'ai bien aimé. Mais content d'avoir eu mon point. Malgré que je suis sûr que je l'avais dit avant Thomas, mais c'est mon réseau qui m'a pas aidé.
Bon.
Écoute, c'est pas une science exacte. Là. J'ai cru en... T'as fini Man United en premier, mais je crois que Tom a prononcé la première voyelle en premier.
Ah, ok, ben ça, c'est ça, ça me dérange pas, c'est pas la fin du monde. United termine dernier, fait que c'est bonne.
On croirait entendre Ten Hag avec ses excuses.
Parce que Duke a été extrêmement compétitif. En fait, les trois, vous avez été extrêmement compétitifs, ça m'a fait bien rire. Uh-huh. Mais félicitations, j'espère que vous avez aimé ce quiz. Et c'est ce qui conclut ce podcast, Recap 2023 et un peu d'actualité également. Alors, les gars, ça fut un grand plaisir. Encore une fois, il est quasiment une heure du matin là, à l'heure qu'on finit ça. Donc, ça vous montre, chers auditeurs, qu'on est motivé à parler de ballon rond. Alors, Tom, Hans et Dou, merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vous souhaite une bonne année 2024.
Merci. Bonne année à vous aussi, les gars. Hein.
Yes. Et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Jason Ballon rond. Salut.